Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez sans trop le savoir. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier et une série de 3 émissions qui vous fait découvrir 10 projets qui ont eu lieu durant l'année 2022 à Reims. Découvrons aujourd'hui l'épisode 1. Dans ce premier numéro de la saison 2022 de votre émission « Que se passe-t-il dans mon quartier ?», nous irons au quartier Croix-Rouge, au quartier Orgeval, et nous aurons également rendez-vous avec l'association Tapage. À Croix-Rouge, c'est l'association Femmes Relais 51 qui nous attend avec un petit café. Et au quartier Orgeval, c'est sur la place Simone de Beauvoir, dans les locaux de la maison de quartier Orgeval, que nous sommes attendus. Mais pour commencer, l'association Tapage a pris place dans notre studio. Et je me permets de vous spoiler, Tapage signifie « travail alternatif payé à la journée ».
Bonjour, est-ce qu'il est possible de vous présenter et donc de nous présenter ce qu'est Tapage ?
Alors bonjour, donc Alexia Camacho, je suis éducatrice spécialisée et je travaille à l'association Addiction France, anciennement LAMPA, dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et on a mis en place depuis mars 2022 concrètement le dispositif Tapage, donc travail alternatif payé à la journée. C'est un dispositif qui vient du Québec, qui est arrivé dans les années 2000 et qui s'est progressivement installé en France depuis 10 ans maintenant. Donc c'est un programme de réduction des risques pour les jeunes entre 16 et 25 ans qui ont des problèmes de consommation ou d'addiction et pour leur permettre progressivement, s'ils en ont envie, de retourner dans une démarche de travail. Donc on leur propose en fait ce qu'on appelle dans le jargon Tapage des plateaux de travail. Donc c'est quelques heures par semaine on leur propose des activités particulières et des activités qui ne nécessitent pas de qualification ou d'expérience particulière. Donc ça va être 4 heures en demi-journée. On va pouvoir faire de l'espace vert, de la peinture. On va pouvoir faire aussi ramassage de déchets, par exemple. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi dans le dispositif Tapage, c'est qu'au-delà du travail, en fait, si vous voulez, on utilise vraiment le travail pour créer du lien avec ces jeunes-là et pour progressivement mener à bien leur projet en fonction effectivement de ce qu'eux, ils ont envie. Et on peut, derrière ces plateaux de travail, donc comme je disais dans le jargon Tapage, proposer un accompagnement éducatif, de l'accès au logement s'il y a besoin, en lien bien évidemment avec les partenaires, s'ils sont déjà suivis avec les partenaires extérieurs. Mais ça ne se résume pas à seulement faire 4 heures d'activité. C'est vraiment tout un accompagnement éducatif derrière. Il y a aussi la dimension de groupe. J'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, c'est que c'est des groupes en moyenne 4 jeunes. Et donc du coup, c'est important aussi pour eux. Ça crée une dimension un peu collective et un peu d'entraide entre eux. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Aujourd'hui, on est ici pour parler de ces actions qui sont menées dans le cadre des politiques de la ville. Est-ce que c'est possible de vraiment nous présenter ces actions menées par Tapage, leur durée, leur fonctionnement, peut-être comment les jeunes s'y retrouvent, sont orientés vers vous, et donc tout le cheminement en fait?
Alors en fait, effectivement, dans le cadre des politiques de la ville et à Tapage, on accueille des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville et qui sont orientés la plupart du temps par les services de prévention de Reims et puis par le bataillon de la prévention qui justement accompagne les jeunes sur ces quartiers prioritaires de la ville. Et c'est dans ce cadre-là en fait que Tapage s'inscrit.
D'accord. Et du coup, donc, comment ça se passe une fois qu'ils arrivent chez ta page, etc.
Alors, il n'y a aucune contrainte. Si les jeunes sont à ta page, c'est qu'ils ont envie d'être là. Et en fait, je les rencontre une première fois. Les démarches sont très, très rapides pour que justement ce soit concret et qu'il y ait une réponse à leur apporter rapidement. Donc, je les rencontre, on fait les documents juste pour l'autorisation de travail. Ça dure vraiment 5 minutes. Et puis, dès le lendemain matin, ils peuvent venir, même dès l'après-midi, s'ils ont envie, ils peuvent venir travailler avec moi, du coup, sur le dispositif tapage. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, qui est hyper important, c'est que la particularité de ce dispositif, c'est que les jeunes, ils sont payés directement à la fin de leur journée. Donc, en fait, on travaille 3 ou 4 heures et directement à la fin de ces 3 ou 4 heures, les jeunes récupèrent leur salaire. Donc dans le cadre du dispositif, je disais que les jeunes étaient payés directement à la fin de la journée. Donc on travaille en partenariat avec Partage Travail 51, qui sont les employeurs légaux des jeunes, donc qui s'occupent de la mise en place des contrats à durée déterminée d'usage, des fiches de paye et puis des avances sur le salaire.
Et donc ces actions, elles peuvent durer combien de temps? Combien de temps les jeunes peuvent rester dans le dispositif? Est-ce que c'est un accompagnement court, long?
Tout dépend des jeunes et tout dépend de leur envie, de leur projet. Alors effectivement, le dispositif, il va jusqu'à 25 ans. Donc normalement, après les 25 ans, les jeunes sont réorientés. Mais on a la volonté avec Tapage de ne pas créer de rupture dans le parcours des jeunes. Donc il y a la possibilité en tout cas de pouvoir les accompagner un petit peu plus longtemps, le temps vraiment que leur projet soit concret et qu'ils puissent avoir une réponse en fait à leurs besoins.
Je pense que tout à l'heure, on a esquissé rapidement les travaux qui pouvaient être effectués. Est-ce que c'est possible de peut-être nous détailler un peu plus et nous dire dans quel cadre exactement ils peuvent se passer, par exemple, quel type d'employeur, etc.
Alors en fait, depuis le lancement du dispositif en mars, on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux de Reims. On a défriché des parcelles de jardin qui étaient en fait pour des locataires qui ne les entretenaient plus. Donc on a eu besoin de vraiment tout défricher, tout débarrasser pour rendre en fait l'endroit propre. On a aussi taillé des haies dans des rues de Reims parce qu'effectivement ça tombait sur les trottoirs et du coup ça gênait les passants. Donc pour rendre aussi la rue propre, on a taillé des haies. On a fait de la peinture aussi pour notre association et ça nous a permis en fait de lancer le dispositif dans un premier temps et de voir un peu comment ça allait fonctionner. Et puis prochainement, on a aussi effectivement aussi de la peinture dans des halls d'immeubles, dans des quartiers prioritaires de la ville pour rendre l'endroit aussi propre pour les habitants. Et on a travaillé aussi avec une auto-entrepreneuse dans le cadre de potagers collaboratifs et partagés sur Châtillon et puis dans un autre quartier de Reims où on a mis en place un potager partagé. Et on a travaillé aussi récemment avec le CCAS pour 2 heures de manutention pour aider une famille à déménager. Donc vraiment, c'est avec tous les acteurs de la ville pour lesquels on a travaillé, principalement les bailleurs sociaux, mais on tend vers aussi le développement de partenariats avec des entreprises privées, si c'est possible.
On a fait des promenades de chiens aussi.
Ah, t'as raison, on a fait aussi des promenades de chiens. Alors en fait, c'était dans le cadre d'un partenariat encore avec un des bailleurs de la ville, et c'est pendant des pannes d'ascenseurs. Quand ils ont des pannes d'ascenseurs, en fait, avec le service senior de ce bailleur-là, on a été sollicité pour faire des promenades de chiens. Alors c'est un peu différent du format classique de groupe, puisque ça, c'était des moments individuels. Donc dans un premier temps, moi, j'ai accompagné les jeunes sur les premières promenades de chiens, et puis après, en toute autonomie, ils ont pu assurer derrière ces promenades-là.
D'accord. Donc c'est vraiment très large, en fait, comme...
C'est ça, vraiment très large, et c'est vraiment... Des expériences sans qualification, sans expérience, accessibles.
On a parlé un peu rapidement des accompagnements à côté.
Oui.
Est-ce que c'est peut-être possible, je ne sais pas, de détailler un peu plus
Alors le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup de... Enfin, comme le dispositif, il est assez récent, je n'ai pas assez suffisamment de recul par rapport à ça. Et aussi parce que les jeunes que là j'accompagne et qui sont déjà dans le dispositif ont aussi des ressources à l'extérieur avec déjà des éducateurs qui les accompagnent sur certains volets, donc l'insertion, sur le logement, etc. Donc après c'est vrai que Tapage aussi c'est un dispositif qui est axé sur le soin, enfin la réduction des risques. Et ça permet aussi aux jeunes, s'ils en ont envie après, plus facilement de se tourner vers notre centre de soins ou vers le CARUD, qui est un centre d'accompagnement et d'accueil à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et en tout cas, de leur ouvrir cette porte-là, peut-être en leur donnant suffisamment de confiance par rapport aux professionnels qu'ils sont, parce que ce n'est pas toujours facile d'entrer dans un centre de soins. Donc ça peut aussi être un des petits plus du dispositif. Alors le dispositif, donc, il est mis en place depuis mars. On avait la volonté de pouvoir proposer, parce que ce qui est difficile, c'est de pouvoir trouver des plateaux de travail dans un premier temps. Et en fait, c'est allé très très vite, parce que plein d'acteurs de la ville trouvent et ont envie de se mobiliser en fait, pour ce dispositif-là et de pouvoir proposer aux jeunes quelque chose de pérenne. En fait. Et la volonté du dispositif, c'est que toutes les semaines, ils puissent au moins avoir une mission de travail pour pouvoir répondre à leurs besoins immédiats grâce à leur salaire qu'ils ont, qu'ils reçoivent tout de suite. Donc depuis que c'est lancé, donc, comme je vous disais, ça allait très très vite et ça fonctionne vraiment bien. On a des jeunes qui sont là depuis le début du dispositif et qui s'y tiennent et qui sont motivés, qui sont investis et qui viennent à chaque fois qu'il y a une mission. Le fait que ce soit pas obligatoire, je pense que c'est aussi un vrai petit plus dans ce dispositif-là parce qu'il n'y a pas de contraintes. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils ont envie d'être là et c'est qu'ils ont envie de travailler, qu'ils ont envie de passer 3-4 heures ensemble pour pouvoir travailler. Et ça fonctionne bien et on aimerait que ça fonctionne encore plus, en tout cas pour pouvoir proposer à plus de jeunes d'entrer dans ce dispositif-là. C'est tout récent, mais on a déjà une file active de 9 jeunes et surtout 4 principaux qui viennent toutes les semaines, en tout cas très régulièrement, voilà, et qui me sollicitent aussi régulièrement. On fonctionne souvent par SMS en disant qu'il y a du travail qui est possible le lendemain matin, par exemple. Et puis, si moi je tarde un peu, eux me sollicitent aussi régulièrement en disant quand est-ce qu'on peut travailler la semaine prochaine. Donc, vraiment un super dispositif qui je pense, va continuer en tout cas. Qui est voué à continuer déjà de toute façon et puis à se développer en fait davantage sur Reims, parce que c'est aussi un dispositif qui existe dans plein de grandes villes, 62 maintenant en France, et on a ce soutien aussi de Tapage France qui est l'entité nationale, si on peut le dire comme ça, et on a l'appui de ces professionnels qui nous aident à développer davantage le dispositif à Reims, et on peut aussi prendre les expériences des différents collègues de Tapage France des autres villes de France pour pouvoir développer davantage des plateaux de travail, etc. Donc ça, c'est aussi un avantage dans le dispositif. Comment t'as connu le dispositif ?
Par un de mes potes.
Ouais.
Qui était Raphaël, qui était accro à un truc, tu vois. Et puis, du coup, il m'a invité là-haut. Enfin, il m'a invité à aller voir l'AMPA, justement, pour aller travailler. Et en 2 ans et demi que j'ai fumé, 2 semaines et demie après, j'ai pu travailler au Tapage. J'ai pu réussir ce que j'ai pas réussi en 2 ans et demi, quoi.
Et t'as commencé quand ta page ?
Si je me trompe pas, je crois que c'est le 4 juillet. 4 juillet ou 4 juin, je sais plus. Non, c'est le 4 juillet, je crois. Ouais. Et puis, non, ça fait oublier de penser à soit l'alcool ou soit à la drogue. C'est plutôt cool, tout le monde s'entend bien. Puis bon, ça c'est dur quand même, quoi.
C'est vrai. On est fatigué après les 3 heures.
Quand même avec l'émission Tapage, ce qui est bien, c'est que quand on a du mal à s'insérer professionnellement, ça nous rajoute quand même des compétences sur les CV. Et du fait qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de qualifications requises, ça nous aide beaucoup. Et puis, ça fait toujours de l'expérience professionnelle en plus, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, c'est vrai quand même que, personnellement, depuis que j'ai commencé l'émission Tapage, j'ai quand même beaucoup plus d'appels des entreprises intérimaires pour des missions de travail. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien quand on a du mal vraiment à s'insérer professionnellement.
Se passe-t-il dans mon quartier est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de politique de la ville. Vous êtes toujours sur Radio Primitive et à l'écoute de l'émission « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» épisode 1. Après cette découverte de l'association Tapage, nous allons à présent nous rendre à la maison de quartier Orgeval. Laetitia et Hicham nous présentent leur projet 2022 entièrement tourné vers les jeunes. Et aussi, un petit rappel salutaire du rôle de la maison de quartier Orgeval.
Est-ce que tu pourrais te présenter et donc nous présenter la maison de quartier Orgeval et ce qu'est une maison de quartier en fait?
Bonjour Enzo, donc moi je m'appelle Laetitia Vigneault, je suis la directrice de la maison de quartier Orgeval depuis le 15 mars 2022. Avant ça, j'étais coordinatrice à maison de quartier Châtillon et pendant 10 ans et encore avant les 10 ans précédents, j'étais médiatrice interculturelle à maison de quartier Wilson. Donc une maison de quartier, c'est une structure de proximité sur un territoire défini et qui a pour vocation première à développer des actions et des projets pour les habitants du quartier de référence. Ces projets, ces actions doivent être travaillés et pensés en concertation avec les habitants et les partenaires du territoire, les différents acteurs, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Les maisons de quartier sont des structures où la première objectif, c'est de valoriser le pouvoir d'agir des habitants via des instances de gouvernance, notamment le conseil d'orientation de la structure. L'idée, c'est vraiment que ça soit un espace de vie collective au cœur du quartier où n'importe quel habitant qui le souhaite puisse trouver une place. On développe des projets pour les enfants à partir de 3 mois et demi du service, notamment via le multi-accueil, jusqu'à des actions pour les personnes seniors, puisqu'on accueille en fait, notre tranche d'âge, c'est de 3 ans et demi à 90 ans et plus. Donc on propose un panel de services comme les éducateurs de prévention, les assistantes sociales, les DRED, etc. Et puis plein d'activités, que ça soit sportive, culturelle, artistique, voilà. On travaille beaucoup avec les différents acteurs du quartier, notamment les associations, dont Radio Primitive, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, mais également le Jardin Parallèle, le Manège qui est implanté sur le territoire, le Gourbi, qui est le plus petit théâtre de France, qui est place de Fermat, et l'association Créadev, qui est aussi pas loin. C'est vraiment nos partenaires de référence. Dans un souci d'accompagnement des publics et notamment de l'enfance, des enfants et des collégiens, des lycéens, on travaille également avec les établissements scolaires, que ce soit les écoles du secteur ou le collège et le lycée. La maison de quartier Orgeval, c'est environ 600 adhérents, ça veut dire 600 familles, hein, c'est pas 600 personnes. C'est une maison de quartier qui a vu le jour en 2016, hein, qui est née de la fusion de l'ancienne MJC Schweitzer et du centre social. C'est une maison de quartier qui a des grandes potentialités, hein, puisque c'est un gros équipement de 2500 m² avec une salle de danse, un podium, un studio son, une salle de boxe. Mais c'est une structure qui manque quand même, je pense, de visibilité sur les actions qu'elle peut développer, qui a travaillé sur son image et sur son lien avec les habitants. Voilà ce que je pourrais vous dire. Par contre, elle sera ouverte et ce sont des habitants qui feront les visites dans le cadre de la journée du patrimoine le 17 septembre. Et donc, il y aura des animations sur la place de Simone de Beauvoir toute cette journée-là, en lien avec Créadev qui fera visiter les parcours des essences, les espaces nature qui sont dans le quartier Orgeval. Et donc, vous pouvez venir visiter la maison de quartier. Une des autres priorités de la maison de quartier sur les prochaines années, c'est vraiment de développer ce qu'on appelle les actions hors les murs, en allant vers les habitants, c'est-à-dire justement pour travailler sur la communication de la maison de quartier et sur la visibilité. C'est plutôt que d'attendre que les gens viennent à nous, comme on est quand même un gros équipement et que ça peut aussi freiner, hein, de rentrer dans ce grand bâtiment. L'idée, c'est vraiment de développer des actions comme on l'a fait là tout le mois de juillet sur la place Simone de Beauvoir, des actions soit en pied d'immeuble, soit d'élargir en fait notre zone d'affluence. Et donc l'action phare, on est identifié quartier prioritaire de la ville, hein, au vu des problématiques sociologiques qui peuvent exister sur ce territoire, sur le territoire d'Orgeval. Et donc, dans ce cadre, on touche des subventions, on perçoit des subventions, notamment du contrat ville. Et l'action phare qui a été développée en 2022, c'est un projet en direction de la jeunesse, qui est quand même notre public cible, hein, malgré le fait qu'il soit parfois difficilement captif et captable. Cependant, là, on a un groupe qui vient de rentrer de Bordeaux et qui a mené un projet pendant 2 ans sur de la citoyenneté, quoi. Donc Hicham en parlera mieux que moi. Hicham qui est adulte relais, qui fait office d'animateur jeune depuis quelques temps, est en mesure de bien vous le présenter.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais dans cette structure ?
Oui, rebonjour, moi je m'appelle Hicham Bounjem, je suis animateur secteur jeunesse depuis 2016 à la maison de quartier Orgeval. Je suis sur un contrat adulte relais qui me permet de travailler sur presque tous les secteurs d'activité, mais notamment sur la jeunesse, vu le besoin de renforcer l'intervention auprès des jeunes ici à la maison de quartier Orgeval. Du coup, je travaille beaucoup dans le cadre des projets qui visent atteindre des objectifs tracés, parce que ce soit par le contrat de ville, par la ville de Reims dans le cadre du contrat de ville, ou par la maison de quartier même dans notre analyse quotidienne de la situation des jeunes, notamment des jeunes les 11-17 ans, entre 11 et 17 ans. Et du coup, j'ai pu travailler sur des projets tracés, comme le projet que la directrice il vient de dire, le parcours citoyen. C'est un projet intéressant parmi d'autres, et ce projet qui vise vraiment à donner plus de visibilité aux dispositifs administratifs existants en France. On s'est inspiré de plusieurs situations. On a remarqué que les jeunes dans les quartiers le quartier d'Orgeval notamment, il y a une forme d'ignorance aux dispositifs administratifs. Ça veut dire qu'on peut recevoir des demandes qui ne sont pas forcément destiné à la maison de quartier, comme on a eu des cas des jeunes qui demandent le travail, qui demandent l'appartement, etc., ou qui ignorent forcément. Et ça, nous, dans notre analyse, on a constaté que ça peut développer le côté citoyenneté chez les jeunes. C'est des jeunes-là qui ont été en rupture avec tout ce qui est administratif, d'où l'idée de travailler avec plusieurs partenaires, dont les éducateurs, les institutions autour, la ville de Reims. Et de là que ce projet, il a eu naissance à la maison de quartier, ça fait deux ans. Du coup, l'idée, c'est de prendre un groupe de jeunes et travailler sur eux, sur ces thématiques. Ça veut dire qu'on a mis en place des visites à tout le dispositif administratif, y compris la mairie de proximité, l'hôtel de ville, la sous-préfecture, et bientôt, ça va être la région, et puis l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de prendre ce groupe de jeunes, de faire des petites recherches, de leur demander des missions, à faire des petites recherches, à quoi sert l'institut qu'on va visiter. On visite, on va voir les locaux, les missions à l'intérieur, le chef, qui fait quoi. Du coup, jusqu'à maintenant, on a été, comme je viens de dire, la mairie de proximité, la mairie, l'hôtel de ville, la sous-préfecture. Et donc, pendant toutes ces visites-là, on a remarqué le développement de plus, c'est l'enrichissement en fait de leur connaissance, et puis c'est une forme de réconciliation avec le concept de la République pour ces jeunes-là qui sortent pas de leur quartier, qui sont un petit peu en conflit tout ce qui représente l'État. Nous on s'est dit c'est peut-être pas mal de sortir de ce discours direct et leur faire vivre des situations et des rencontres. Et du coup ça, c'est un projet qu'on a remarqué qu'il a eu son effet positif souhaité. Jusqu'à maintenant, on marque des points, si on peut se permettre de le dire comme ça. On pense à adhérer d'autres jeunes, parce qu'il y avait une perturbation à cause du Covid. Donc là, c'est une forme de reprise en ce moment. On pense rajouter d'autres jeunes, notamment mixer les publics, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur l'objectif de la mixité femmes-hommes. Alors, Jeval, ce n'est pas les filles qui manquent en termes de fréquentation de la maison de quartier, mais c'est le contact filles-garçons issus du même quartier, que parfois on travaille sur ça, il y a une forme de rejet des deux côtés. Et ce projet-là, dans ce projet-là, on essaie de joindre aussi l'outil à l'agréable, ça veut dire pour chaque sortie, on fait la sortie, c'est la partie pédagogique qui est la visite, le rencontre, les interviews avec les responsables, la petite recherche de qui fait quoi et à quoi sert cette institution, toujours un loisir après. C'est-à-dire, pour vous donner exemple, lorsqu'on va partir à Strasbourg pour voir la région et le Conseil européen, c'est prévu qu'on visite un parc d'attractions en Allemagne, Europa Park, qui n'est pas loin vraiment de la ville de Strasbourg. C'est pour ça que j'ai dit que c'est prévu, c'est pas encore, c'est toujours question de budget. Et puis voilà, donc ce projet, c'est parmi beaucoup de projets qu'on réussit à cette maison de quartier. Moi, je suis fier d'y participer à ce projet. Et voilà, et on rajoute à ça le séjour éducatif qui fait partie d'un grand projet qui s'appelle aussi le cercle éducatif. C'est des jeunes, un groupe de jeunes en difficulté socio-économique, en situation fragile, qui fréquentaient la maison de quartier. On a pu travailler avec ces jeunes-là depuis l'âge de 11 ans. Donc cette année, on a fait un cycle avec ce groupe de jeunes. Ça nous a permis de les connaître, de les voir grandir, d'avoir un grand lien avec leurs parents, de connaître bien la situation de ces jeunes-là. Et on a vu, par exemple, par rapport à d'autres générations qu'on a travaillé un petit peu tard avec eux, que le lien il est plus fort, et que je pense que la maison de quartier a fort contribué, que ces jeunes-là, ils font pas partie de beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont déscolarisés et qui passent la journée à la maison de quartier. Donc, y a moins de violence, il y a plus de discussion, plus de respect vis-à-vis des habitants, des salariés de la maison de quartier, leurs parents. On a même été loin à avoir des liens avec leurs professeurs au Collège Colbert, parce que le Collège Colbert, il fait partie de ce projet. Et pour ça, on l'a appelé le cercle éducatif, où il y a notamment les parents, les éducateurs, l'animateur, la maison de quartier en général, et l'établissement scolaire. Et ben voilà, en gros, le secteur jeunesse, on travaille de cette manière. C'est des projets avec des partenaires, avec la ville de Reims. En plus de ça, c'est des animations, comme le cas pour cet été aussi. Même si nous, on était au séjour, il y avait une autre équipe, c'est d'autres collègues qui prennent le relais. Et on a concentré toutes les activités à l'extérieur de la maison de quartier. C'est pour répondre à cet objectif de la visibilité aussi, de sortir vers la population, parce que je rejoins ce qu'elle a dit Laetitia. C'est vrai que c'est une maison de quartier effervescente, active, mais il manque beaucoup de travail sur la communication et la visibilité de la structure en général, que ce soit au niveau géographique ou alors au niveau de la com. Et on travaille sur ça depuis l'arrivée aussi de Laetitia. On essaye de chercher des solutions pour que ce soit nous qui renforce notre démarche à aller vers la population et en dehors des murs.
Je vais compléter, je vais finir ce que vient les propos d'Hicham. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitants qui souvent n'osent pas pousser les portes de la maison de quartier en pensant que toutes les actions qu'on mène sont en direction de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Or, comme je vous l'ai dit au début de notre rencontre, on développe des activités pour tous les publics et on essaye de développer des activités dites intergénérationnelles. Là, avec, on espère, la fin du Covid, on peut se permettre. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez un atelier couture dans le cadre de Reims Capitale Européenne avec des personnes âgées et des enfants du centre de loisirs d'Orgeval. Et demain, on a 115 personnes qui partent à Formaon. Donc de tout âge, des familles, des personnes âgées, passer une journée à la mer. Notre vocation, c'est vraiment d'encourager les gens à se rencontrer et à créer des liens entre eux, voire des liens de solidarité sur le territoire.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série d'émissions qui vous fait découvrir des projets rémois réalisés dans le cadre de politiques de la ville. À présent, découvrons les différents projets de l'association Femmes Relais 51. En 2022, l'association fut fort occupée. Des projets artistiques, des rencontres. Femmes Relais reste définitivement une association incontournable et indispensable sur le territoire rémois.
Sébastien, directeur de l'association Femmes Relais 51, embauché depuis 2007 au sein de cette association.
Est-ce qu'il est possible, avant qu'on parle des projets qui nous intéressent par rapport à votre association, nous réexpliquer ce qu'est Femmes Relais 51, quel est son but, et puis rapidement, bien sûr, puisque c'est une association qui est là depuis très longtemps sur Reims, mais nous rappeler un peu comment tout cela est né.
Alors, Femmes Relais, c'est issu d'un groupement de femmes qui de façon informelle se sont réunis en 85 sur sous le statut d'une association de faits, donc non déclarée, qui est devenue une association déclarée loi 1901 en 99, donc on a fêté nos 20 ans il y a 3 ans, les 20 ans d'existence de l'association. C'est une association de médiation sociale interculturelle, de grands mots pour dire en gros un lien entre des personnes d'origine étrangère et toute forme d'institution, association ou structure auxquelles ils peuvent prétendre pour des accès aux services, des dispositifs. Bref, on est une forme de maillon dans une chaîne globale qui va faciliter la vie, en tout cas on l'espère, de tous ces usagers en essayant de les forger vers l'autonomie, ce qui est quand même pas simple. C'est plus facile à décréter qu'à faire, puisque ils ont besoin de cours sociolinguistiques, ils ont besoin aussi de temps, ils doivent aussi s'occuper des situations du quotidien qui sont plus de l'urgence. Donc l'objectif est d'abord d'apporter une aide et, comme je le disais, tout en essayant de les forger vers une certaine autonomie, mais qui prend beaucoup de temps suivant certaines situations. Et donc on est sur les quartiers prioritaires, essentiellement Croix-Rouge, Wilson, Maison-Blanche, Orgeval, et ça doit être tout à l'heure d'aujourd'hui.
Dans cette association, il y a des salariés, des bénévoles. Mmh. C'est possible de nous donner un exemple des actions des bénévoles, mais chaque jour, en
fait. Alors, on a pas mal. On a quelques bénévoles, mais on en a deux vraiment présents. Donc, on en a une qui est la fondatrice de l'association, Madame Talbi, qui, elle, par exemple, va intervenir dans le cadre de la médiation sociale interculturelle auprès des populations arabophones. Donc, un travail, on va dire, similaire à celui de certaines salariées. Sauf qu'à la rigueur, elle a beaucoup plus de liberté obligatoirement, elle travaille quand elle peut et elle va avoir une forme d'autonomie que n'ont pas obligatoirement les femmes ou les professionnels, puisqu'elles sont régies par un cadre emploi du temps et autres. Et ensuite, on a Marie qui est une dame bénévole depuis, alors j'ai peur de dire une ânerie, mais ça doit faire 10-12 ans, qui est une dame qui était venue un petit peu de façon un petit peu fortuite. Elle était venue plus pour faire du bénévolat à la maison de quartier Wilson, et elle cherchait une place, une chose à faire. La maison de quartier nous l'a renvoyée, et ne parlant pas de langue étrangère, elle a mis un petit peu de temps, donc elle a pris quelques mois. Et à partir de là, elle a décidé de faire des petits cours de français qui viennent un peu pallier le manque de place sur les cours sociolinguistiques. Alors après, quand je dis pallier, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que c'est une forme de salle d'attente pour les personnes qui vont pas pouvoir accéder aux ateliers classiques, et qui va leur permettre d'acquérir quand même un français usuel pour tous les jours. Et elle fait ça depuis 10 ans, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi matin.
Donc là, vos locaux actuellement sont à Croix-Rouge.
Ouais.
Tu nous as parlé des différents quartiers que vous pouviez couvrir, mais c'est-à-dire qu'il y a une action, il y a quelque chose de plus fort qui se déroule à Croix-Rouge ?
L'objectif du local, on ne va pas se mentir, il n'était pas obligatoirement au début en termes d'aide. Il était plus en termes de visibilité. On était au sein d'un collectif auparavant qui faisait que beaucoup de gens pensaient que nous étions une cheville ouvrière du collectif, en oubliant un peu l'identité de l'association et ses particularités. Nous, l'objectif était bien de la rendre aussi visible, puisqu'à un moment donné, l'objectif, autant que faire se peut, est de la stabiliser, c'est-à-dire aussi bien sur le plan financier que sur le plan salarié. Et sans visibilité claire, on peut difficilement accéder à une forme de stabilité financière qui est loin d'être acquise à ce jour, mais qui nous permet au moins d'avoir une forme de reconnaissance qu'on va considérer plutôt tacite plutôt que effective pour l'instant.
Alors, parmi les actions que vous pouvez mener tout au long de l'année, vous avez des actions qui rentrent de ce qu'on appelle donc le contrat de ville. Mmh. Est-ce que c'est possible de nous parler des versions 2022 du contrat de ville chez Femmes Relais ?
Alors, on a émargé sur le contrat de ville avec plusieurs actions. La première est une action un petit peu récurrente, mais on avait changé un peu de forme, c'est-à-dire c'est pour la Journée internationale des droits des femmes. Qui est une journée qui est chère à Femmes Relais. Alors au-delà
c'est presque une institution chez vous.
Oui, alors mais c'est ce que j'ai à dire, au-delà des valeurs que nous on défend déjà, puisque de toute façon l'émancipation de la femme fait partie des deux objectifs prioritaires de l'asso, c'est surtout parce qu'on a aussi des collègues auxquels on a pensé, parce qu'elles nous avaient relancé en 2010 ou en 2011, parce qu'au sein de leur pays d'origine c'est une date très importante. Donc on s'est dit que ce serait aussi une forme de reconnaissance pour elles, de prendre en considération cette journée qui leur paraissait peut-être plus importante que pour nous. Pour nous, c'est plus de l'ordre du symbole. Sans faire de grandes phrases, la lutte, elle se mène pas au 8 mars, elle se mène du 1er janvier au 31 décembre. Mais bon, on s'est dit qu'on pouvait concilier les deux. Et là, cette année, on était donc sur quelque chose, en tout cas, qui nous a paru intéressant. Alors, on avait toujours une petite exposition de savoir-faire. On a des dames russophones, arabophones ou autres qui ont exposé des tableaux, des sculptures, pas mal de choses. On avait mis en place un atelier création de bijoux avec une ancienne usagère femme relais qui est devenue auto-entrepreneur en créatrice bijoux. Donc, c'est aussi une façon de valoriser des parcours, puisqu'elle était usagère jadis. Cet atelier a donné cours à une exposition où on a pu voir les productions de chaque femme. Et chaque femme est repartie avec son bijou. Et on a travaillé avec Keisha Création sur un défilé de mode. Alors, c'est peut-être pas le bon mot mode, mais un défilé vestimentaire où un groupe d'environ 6 à 8 femmes ont créé des robes ou des jupes ou peu importe, des vêtements qu'elles avaient envie de faire et qui correspondaient ou à leur... besoin. Par exemple, il y en a une qui a fait une robe pour sa petite fille, l'autre pour elle. Certaines faisaient des robes complètes, d'autres des jupes. D'autres... L'objectif était de leur permettre de mettre en avant un temps de discussion, d'échange autour d'un moyen qui était la couture, de leur permettre aussi de valoriser leurs compétences et de permettre de les valoriser tout court par une forme de petit défilé très humble, mais qui a permis de montrer les productions et de mettre en avant aussi ces dames. Donc ça, c'était la première action. Donc on a eu ensuite une grosse action qui s'est déroulée du mois de mai au 1er juillet. Nous avons essayé de faire une action autour de la parentalité. L'objectif était de permettre de ramener des parents d'origine étrangère auprès des dispositifs existants à Reims. Donc on a travaillé avec la maison de la famille, on a travaillé avec la circonscription, des personnes de la sauvegarde, je crois, sont intervenues aussi sur nos ateliers. Donc on avait deux groupes de paroles. Qui était destiné à ces personnes. Un premier qui était sur un petit peu les dispositifs existants et les droits et devoirs des parents en France. Et un deuxième qui était intitulé de mémoire « Être parent, un défi au quotidien » qui permettait à ces personnes d'avoir en discussion directe avec des professionnels spécialisés la possibilité de poser des questions par rapport à des choses que ces personnes peuvent rencontrer tous les jours, ou alors auprès de l'établissement scolaire, ou alors juste auprès de l'enfant, des fois par rapport à un problème peut-être d'autorité. On a quand même pas mal de situations diverses et variées, comme de toute façon toutes les assos, c'est pas spécifique au public étranger. Donc on a eu ces deux groupes de paroles qui étaient en même temps à cheval avec une autre action, mais une action complémentaire à ce projet, qui était la création d'une fresque par les parents et les enfants. Et donc, on a travaillé avec un ami à moi qui est aussi, moi je dis artiste, il n'aime pas que j'utilise le terme, mais Nicolas Baumann, qui est quelqu'un qui bosse beaucoup dans le milieu du spectacle et qui est doué de ses mains. Et donc, il nous a fait une fresque sous forme...
On peut dire artiste, hein, tant pis.
Mais lui, il n'aime pas. Mais oui, moi, je revendique. En gros, il a eu en plus l'idée assez sympa de faire une fresque avec des silhouettes. Alors, des silhouettes avec, en plus, quelque part, un côté un petit peu pingouin. Pourquoi manchot, pardon, pas pingouin, manchot. Pourquoi des silhouettes? Parce qu'on voulait que ça touche tous les publics, même si c'est un public femme relais. On voulait que ça touche les publics français comme étrangers, les publics hétéros comme homo, bon, bref, les enfants, les petits, les grands. Et quelque part, ces silhouettes de manchot permettaient que chacun s'y retrouve. Et Nico a eu cette idée parce que ça résumait aussi l'idée de la solidarité sur la banquise entre les manchots et autres, l'entraide. Et donc, chaque femme qui est venue participer ou enfant a fait une plaque en bois sur laquelle il a mis sa définition, alors pas sa définition, mais sa vision de la parentalité, ou alors un petit mot pour eux représentant la parentalité. Et donc, ces mots ont, se collaient sur la fresque sous forme de plaque, et donc la fresque est en bois, fresque amovible, donc, et dont l'inauguration a eu lieu à la mairie le 1er juillet. Ce qui était aussi pour moi important, parce que c'était important que ces gens voient la mairie sous une autre forme que le côté bureau état civil ou autre. Je pars du principe que ces gens travaillent à Reims, vivent à Reims, sont derrière moi comme les autres. Et la mairie a été super sympa de nous permettre un accès. Et donc, leurs paroles ont été mises en valeur par cette fresque. Et donc, sur cette fresque, il y a 6 panneaux permanents, quoi, 6 places permanentes qu'on peut remplacer donc, par des systèmes de scratch. Et on a eu donc 14 femmes ou enfants qui ont témoigné. Et donc avec en plus l'aspect calligraphique, parce que vous aviez de l'arménien, vous aviez du russe, du géorgien, de la langue arabe et du français, je crois avoir rien oublié. Et donc cette fresque en plus après avait un support en papier très bien fait qui a été fait par un graphiste russophone, ancien usager de femmes relais aussi, qui est devenu graphiste à son compte. Et donc chaque personne française pouvait suivre la fresque avec des explications de ce qui était écrit ou en arménien ou en autre langue. C'était aussi une démarche que Nico a initiée parce que dans l'idée, et il a eu raison, c'était pour inciter les gens aussi à être un petit peu acteurs et ne pas venir juste regarder la fresque sans comprendre et juste dire « Oh, c'est beau ». On voulait que les gens aillent lire et s'intéresser à ces propos de ces personnes par rapport à la famille parce que bah, quelque part, il n'y a pas de surprise. Leur définition de la famille, dans les grandes lignes, c'est la même que pour les personnes qui vivent ici depuis des générations ou récemment. On parle de solidarité, on parle de responsabilité. Là, les mots qui reviennent souvent, et ce sont les mêmes que ceux qu'on pourrait entendre de la bouche des gens qui nous sont proches et qui sont obligatoirement étrangers. La troisième qui devrait arriver là, dans le contrat, quoi, qui a été financée par Contrat de Ville, va se dérouler sur les week-ends. Alors, je confonds les deux dates. Je crois que c'est du 17 et du 18, les journées du patrimoine. Et donc, où on va former des petits groupes de 5-6 personnes. Avec des médiatrices sur les deux jours pour leur permettre d'aller de façon plus simple profiter de ces journées du patrimoine et donc accéder au patrimoine rémois. L'objectif étant d'amener ces populations à se sentir des rémois comme les autres, comme je viens de le dire, à donner accès. Donc pourquoi des petits groupes ? Parce qu'on voulait aussi respecter le déroulement général de l'action qui s'adresse généralement à des particuliers ou des... on ne voulait pas engorger les lieux qu'on a définis. Donc de mémoire, on a défini 5 lieux après plusieurs concertations et autres, donc que sont la chapelle Fujita, le palais du Tau, la bibliothèque Carnegie, le musée de la Reddition et le dernier ne me vient plus à l'esprit. On demande aux gens de faire la journée complète, donc une des deux, le samedi et le dimanche. Et si les gens font donc les visites sur une des deux journées, on leur permet, c'est en formalisation là pour l'instant, on attend la confirmation, d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Parce que ça nous paraissait aussi important de leur permettre de voir un lieu de décision important de la démocratie française. Et donc pour ce faire, on est rentré en contact avec une ancienne députée pour essayer d'avoir des contacts avec l'Assemblée nationale et formaliser ce rendez-vous. Et après, on ne va pas se mentir, c'est une façon aussi de leur permettre d'avoir un peu plus d'atouts en termes de fonctionnement des institutions françaises, mais aussi de passer une journée à Paris et donc de s'évader un petit peu des problèmes du quotidien et d'avoir quelque part quelque chose qui joint l'utile et l'agréable.
Alors, parmi les actions que tu nous as présentées, certaines déjà été faites. Est-ce qu'il y a des retours ? Quels sont les retours des participants et participantes ?
La journée du 8 mars a été positive dans le sens où même si on n'a pas eu de retour, on va dire, détaillé de chaque personne, pour vous donner un ordre d'idée, nous on attendait au bas mot aller vers maximum 40-50 personnes dans la salle. On a eu 94 personnes, ce qui pour nous était quand même un petit peu surprenant parce que c'est peut-être pas bien, mais j'ai pas peur de le dire, on a eu des difficultés à communiquer, on a eu des difficultés vu les délais, les actions passées qui ont été freinées par le Covid qu'on devait mettre aussi en place cette année. C'était pas simple, on est une petite équipe. Malgré ça, pour nous c'est un succès. Pourquoi ? Parce que l'objectif de Femmes en Lait est de brasser les publics quand on est sur des actions ponctuelles. Sur le cœur de métier, on est un peu figé, on est sur une population bien identifiée. Et quand on peut constater que sur le 9 mars, parce que nous on l'a fait le 9 pour des raisons pratiques pour les parents, on avait un groupe de l'IRSEM qui était présent, un groupe d'étudiants de l'AFPA, et une troisième structure qui était venue avec un groupe constitué. On se dit qu'on commence à arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire ne pas rentrer dans une forme de clientélisme, de faire que pour une forme de public, de ne faire en écartant d'autres populations, alors que je pense que l'objectif prioritaire qu'on devrait tous avoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt de regrouper les gens et d'arrêter d'étiqueter, de catégoriser les gens, et on voit où ça nous mène, puisque quelque part, les dernières échéances politiques, présidentielle ou politique, montre que les gens sont de plus en plus divisés. Donc, sur ce point, on est un petit peu satisfait, même si c'est qu'une goutte d'eau dans un microcosme, on en est conscient. Mais on est conscient aussi que c'est quelque chose qui n'aurait pas eu lieu il y a peut-être une paire d'années, d'arriver à faire venir des structures comme celle-là sur des actions Femmes en Lait. Ensuite, sur l'action parentalité, ce qui nous a surtout fait plaisir, c'est que les professionnels étaient contents d'identifier de nouvelles familles, de pouvoir leur permettre de donner des débuts de réponse. Et on a même décidé avec la Maison de la Famille et beaucoup des partenaires qui sont intervenus. C'est le collectif POP qui était un des gros partenaires, qui est un collectif sur Croix-Rouge qui regroupe pas mal d'acteurs de la parentalité. On a même convenu, indépendamment des financements, de refaire des ateliers de poursuite d'ici la fin de l'année pour permettre de continuer à travailler sur ce qui a été lancé parce qu'on se rend compte que ça répond à un vrai besoin. et qu'il serait un peu bête de perdre des populations qui ont ces besoins, mais qui quelquefois perdent de fil si on n'est pas, nous, assidus dans la façon de leur proposer des choses qui correspondent à des difficultés du quotidien. Et donc, après, pour les gens du patrimoine, je peux difficilement dire si ça sera un succès, mais on le verra suite aux inscriptions. Là, je vous avouerai que je reviens de vacances, rien n'a été lancé, si ce n'est que l'affiche, elle est prête et tout, et que là, ça va partir en com'. Mais nous, on est persuadés que ça répond à un besoin. Habituellement, on est vraiment axé que sur des actions quasiment autour de la femme sur les autres années. C'est-à-dire que le 25 novembre, le 8 mars et autres, cette année, on n'avait que le 8 mars. Parce qu'on voulait aussi, à un moment donné, permettre de toucher à autre chose pour les populations. Sachant que après, ben, ça rentre pas dans les questions que tu m'as posées, mais une de nos frustrations, par exemple, par rapport au contrat ville, parce que je pense qu'à un moment, c'est aussi bien de remonter ce qui est difficile. Les évaluations à faire le 15 novembre est quand même très contraignant, au-delà de l'aspect purement bureaucratique qui va être appliqué pour chaque association. Mais par exemple, pour le 25 novembre de l'année dernière, on attendait trentaine, quarantaine de personnes grand maximum sur un colloque qu'on avait fait à Maison-Blanche et qui était destiné aux professionnels, et on s'est retrouvé à refuser, je crois, plus de 20 personnes. En gros, on avait 60 personnes le jour même de l'action et on a refusé plus de 20 personnes pour des histoires de jauge parce que le Covid était encore un petit peu récent et autres. Et bien là, on n'a pas pu redéposer parce que quand vous faites votre évaluation le 25 novembre, vous-même, en interne, il est difficile de pouvoir faire une demande sur le contrat de ville suivant au 15 décembre, puisque c'est un peu la date limite pour déposer les projets. Et donc, à un moment donné, nous, on ne voulait pas non plus se fourvoyer, c'est-à-dire déposer un projet pour dire on fait de l'argent, on ramène de l'argent, mais sans savoir s'il y avait une opportunité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment contraignant parce que tous les partenaires professionnels, pour la plupart, avaient rempli des fiches de satisfaction. On avait une satisfaction d'ensemble, à part un petit bémol, mais qu'on aurait pu rectifier comme tout à chacun. L'équipe Femmes Relais s'est sentie vachement valorisée aussi de faire une action comme celle-là. Et je crois que je ne vais pas t'apprendre, comme à des gens qui écoutent Primitive, que le sujet des violences faites aux femmes n'a jamais été autant d'actualité et que quelque part, quand on voit les carences dans le milieu professionnel en termes de formation, alors bien sûr, ce n'était pas une formation, mais ça donnait des billes et ça donnait des points de repère qui peuvent permettre en plus à ces structures elles-mêmes, après, d'aller prendre contact avec le CIDFF ou le MARS ou que sais-je, d'autres structures avec qui on peut travailler. Et moi, c'est cet aspect-là un petit peu frustrant du contrat de vie, c'est que des fois, les dates ne sont pas obligatoirement en adéquation avec des dates calendaires super importantes, parce que même si je dis que c'est des dates symboliques, le 25 novembre est quand même aussi une date importante, parce que là, on ne décrète pas que les femmes ont un droit pendant une journée, contrairement au 8 mars, parce que bon, c'est un petit peu ça qui me dérange moi sur la journée du 8 mars, on pourrait croire dans l'esprit de certains qu'il n'y a que cette journée-là où les femmes ont un droit, mais on parle quand même des violences faites aux femmes, et c'est une journée mondiale, donc ça veut dire qu'il y a quand même si ça reste du symbolique, bien sûr, une préoccupation qui va au-delà même du territoire français. Et moi, j'ai de plus en plus la sensation qu'on a besoin de reprendre tout depuis le départ. Sur les premières années à Femmes Relais, je voyais, c'est un langage que moi, ce que je veux dire, mais une bonne évolution au niveau des mentalités ou autres. J'ai l'impression que petit à petit, on est en train de reperdre du terrain. Et comme j'ai dit, c'est qu'une impression. Et que donc ce temps ou ce genre de temps sont vachement importants. Et je pense que quelquefois, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de souplesse par rapport à des dates comme celle-là qui vont être, on va dire, ultérieures au 15 novembre ou au 15 décembre.
Si on désire suivre les actions de Femmes Relais, peut-on le Facebook, se promener?
Le Facebook, sachant qu'on le réactualise quand on peut. on est une petite équipe et la com prend beaucoup de temps. Oui, le Facebook, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et l'autre, oui, après, il y a la boîte mail. Alors, sur la boîte mail, on sera beaucoup plus réactif. Donc, si les gens qui écoutent veulent nous contacter, il vaut mieux qu'ils notent la boîte mail. Donc, c'est femmesrelais51@gmail.com. femmesrelais51@gmail.com. Et donc, on s'efforcera de répondre. On peut répondre à des demandes ponctuelles, autant dans le cadre de la médiation sociale interculturelle, que à des renseignements. Des fois, on a des gens qui vont nous appeler. J'ai déjà eu des coups de fil de Montpellier ou autre pour des situations. Bon, j'étais surpris, mais ça, on peut le faire. On peut à la rigueur répondre. On peut même à la rigueur, quand il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il y a un peu de distance, faire des traductions par téléphone pour des situations assez urgentes. Donc voilà, ouais, le Facebook, mail, téléphone. Après, pour le restant, on n'est pas encore à la page. Hein, tout ce qui est, je ne vais pas vous mentir, Instagram, etc. On n'est pas à la page.
Mais plus basiquement, est-ce qu'on peut passer vous voir?
Ah ouais, ouais.
Parce que nous, on est aussi. Oui, on aime bien à l'ancienne. Hein.
On paiera le café gentiment. Notre local se trouve au 9 rue Pierre Tétinger. Pour les gens qui veulent s'y rendre, c'est toujours quand même important de savoir. Bah voilà, il y a le tramway qui est juste à côté. Vous prenez le tramway, vous vous arrêtez à l'arrêt Kennedy et vous verrez le local Femmes Relais en pied d'immeuble. La seule chose sur laquelle pour l'instant on est toujours très à cheval, parce qu'on considère que c'est pas encore complètement derrière nous, c'est que pour l'instant toutes les prises se feront par rendez-vous, parce qu'on a toujours peur d'une recrudescence, d'une épidémie Covid ou autre, et l'objectif est d'être là le plus possible sur le terrain pour éviter que ces gens ne soient sans réponse. Donc on essaye d'être présent, et on l'est, mais avec ce petit frein qui va être la prise de rendez-vous, qui n'était pas à la base un des éléments de Femmes Relais. On recevait généralement de façon un peu plus libre. Là, on va rester encore là comme ça, je pense, pendant quelques mois. Et si on est dans l'accalmie qui paraît être celle qu'on vit là depuis 2-3 mois, on reviendra à des venues libres.
Premier épisode de Que se passe-t-il dans mon quartier, édition 2022, s'achève. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2, toujours sur Radio Primitive. Cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du contrat de ville de la communauté urbaine du Grand Reims.